Bonjour et bienvenue à Regards croisés avec Fulgence Blas et
Arlette Farah. Bonjour Fulgence.
Bonjour Arlette, comment vas-tu ?
Ah ben moi je vais très bien, je vais très bien. On va peut-être aller encore mieux puisque on va parler avec une psychologue en début d'émission avec Ariane Hébert qui est déjà venue nous voir. Et qui va nous... Ah ben je vous dis pas le sujet, vous allez le découvrir en même temps que moi, d'accord ? Quand on l'appellera.
Quand j'entends très bien de ta bouche, j'ai l'impression que tu es une personne qui doit adorer l'hiver. Hein.
J'aime la neige.
Oui, mais pas le froid.
Ah ben la neige va avec le froid, faut
Bon, pas forcément. Hein.
Et en deuxième partie d'émission.
Deuxième partie, parce qu'il fait plus froid quand il y a le soleil la plupart du temps en hiver. En deuxième partie, on va recevoir Sylvain Lavoie, qui est le PDG du Centre de Francophonie des Amériques.
D'accord.
Pour nous parler de la présence ou bien de la bonne santé de la langue française dans les Amériques.
Et justement, tiens, à ce propos, on va partir en musique avec Thomas Dutronc, qui nous fait une reprise de C'est si bon avec rien de moins que Iggy Pop et Diana Krall. Français, bien sûr.
C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good.
C'est si bon, so I say it to you, like the French people do, because it's oh so good.
Every word, every sigh, every kiss, dear,
leads to only one thought, and it's this, dear.
It's so good, nothing else can replace, just your slightest embrace.
If you only would,
if you only would,
be my own,
be my own,
for the rest of my day,
for the rest of my day,
I will whisper this phrase,
my darling, c'est si bon.
C'est si bon de vous entendre, Ariane Hébert. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Ariane Hébert.
Bonjour.
Ça va bien. Alors, on est content de vous avoir. Donc là, je n'ai pas annoncé le sujet du jour. Je vous laisse le soin de le faire.
En fait, au sortir des vacances de Noël, comme ça, avec encore ce qu'on vit actuellement, je me suis dit que ce serait une bonne idée peut-être de faire une petite chronique sur le conformisme et l'obéissance.
Oh là là. tellement.
Oui, alors qu'est-ce qui fait justement que certaines personnes vont davantage obéir et se conformer aux demandes de notre gouvernement versus d'autres qui vont être un peu plus délinquants? Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'obéissance et le conformisme, ce n'est pas la même chose. Hein. L'obéissance, on répond à un ordre, on se soumet à une demande. Tandis que le conformisme, on adopte un changement d'attitude plus profond, un changement d'attitude ou de croyance qui vient justement bousculer les croyances antérieures qu'on peut avoir. Donc, c'est un comportement plus stable à ce moment-là. Et on adhère davantage que la simple obéissance. Mais prenons d'abord l'obéissance. Qu'est-ce qui fait que les gens obéissent plus ou moins? Bien, tout d'abord, il y a tout un aspect culturel, bien évidemment. Là, on évolue quand même dans une culture où l'obéissance a sa place, mais où c'est moins important ou moins valorisé que dans d'autres cultures. Je pense aux cultures asiatiques pour certaines, notamment. T'sais. Ça reste qu'il y a plusieurs études en psychologie qui ont démontré que deux facteurs sont très importants pour que les gens obéissent aux demandes. Tout d'abord, il y a la proximité de la personne en autorité. Donc, plus une personne, plus on sent là, son ombre sur nous, plus elle est proche physiquement, mais aussi ça peut être, par exemple, impliqué, c'est-à-dire comme actuellement, là, si on prend notre exemple de notre ministre, notre premier ministre québécois, là, M. Legault, qui est souvent dans les médias, donc on voit son visage souvent.
Tous les jours.
Oui, il s'adresse souvent à la population. Alors, sa présence est beaucoup plus assurée. On a plus conscience qu'il est là versus d'autres dirigeants là où on entend, on lit leurs propos, mais on ne les voit pas. Alors, plus il fera d'apparitions et plus certaines personnes de notre communauté vont se montrer obéissantes. D'autre part, plus les demandes d'autorité concernent des personnes qui nous sont proches, en fait, plus on peut relier les demandes à des gens qui nous entourent, et plus aussi on va avoir tendance à se conformer. C'est-à-dire que si on est capable d'aller individualiser la demande, l'ordre donné, en disant, ben tu vois, ça va avoir un impact sur toi, mais aussi sur les gens qui t'entourent, on a plus de chances que les gens adhèrent. Alors, si, par exemple, on doit obéir à une demande pour des gens dont on ne connaît pas l'existence ou qu'on n'a jamais vu ou qui sont très loin de nous, on va avoir une moins grande facilité à obéir. Fait que donc, il y a une étude super intéressante puis à la fois très troublante qui a été faite en psycho et je vous la raconte. C'est une expérience qui a été faite dans les années 70. Je suis pas sûre que ça passerait au comité éthique actuellement. Mais donc, on demandait à des gens, on invitait des gens dans un laboratoire de recherche en psychologie. Et on leur expliquait que de l'autre côté de la vitre se trouvait un sujet. Et pour vérifier ses capacités d'apprentissage et sa réaction face à la douleur, à chaque fois qu'il se trompait dans la liste de mots qu'on tentait de lui enseigner, on demandait au sujet de lui infliger un choc électrique. Et on disait à la personne donc qui était aux commandes des chocs électriques, voici le seuil que tu ne dois pas dépasser parce que ce seuil-là pourrait infliger la mort à l'autre personne de la côté de la vitre. Évidemment, personne ne recevait réellement de choc électrique, là, c'était un acteur. Mais à ce moment-là, les gens qui étaient en contrôle des chocs électriques ne savaient pas que c'était un acteur. Et vous savez, il y a plus que la moitié, je le répète, des gens qui ont dépassé le seuil des chocs qui auraient pu être mortels. Alors, quand je vous dis que c'est très troublant comme expérience, ça démontrait jusqu'à quel point quand on donne une commande à quelqu'un. Et encore là, le lien d'autorité n'était pas si bien établi. Là. C'est pas quelqu'un qui, par exemple, est dans l'armée puis reçoit des ordres du même commandement depuis 2 ans. Là. Donc, on est vraiment dans un laboratoire expérimental où l'étudiant arrive et puis, bon, on le soumet à cette demande-là. Et on cherche à voir jusqu'à quel point il va réagir à l'autorité. Donc, le trouble de cette expérience-là, c'est bien sûr de dire, mais mon Dieu, on devient inhumain quand on est soumis à l'autorité. Il y a des explications. Hein. Si on pense, par exemple, à qu'est-ce qui fait en sorte, justement, qu'on va devenir aussi autoritaire, c'est essentiellement quand l'individu qui est en position d'autorité est menaçant et près de nous. Ça, c'est 2 choses qui vont faire en sorte qu'on va vraiment plus se soumettre, peu importe la demande. Oui. D'autre part, plus l'individu, par exemple, qui était en souffrance, qui recevait des chocs, plus il était éloigné. Même il y avait des situations où la personne ne pouvait pas le voir de l'autre côté du miroir. On prétendait qu'il était dans une autre pièce à part et donc on ne l'entendait pas, on ne le voyait pas. Alors là, les gens se conformaient davantage. Vous voyez, si on fait le pont maintenant avec l'obéissance à ce qu'on nous demande, plus on est capable de dire aux gens, ben tu vois, ça va avoir un impact sur ta troisième voisine qui, elle, est infirmière, si tu te conformes. Ça va avoir un impact aussi sur, par exemple, tes parents, si tu attrapes la maladie. Donc, plus on est capable d'individualiser ça, plus l'individu est capable, justement, de dire, ah, ben oui, c'est un lien direct, et je vois cette personne-là, je connais cette personne-là sur qui ça va avoir un lien direct, plus l'obéissance va survenir spontanément, naturellement. Mmh. Et, comme je le disais, plus on voit le charmant visage de Legault à la télévision, et plus c'est lui, justement, qui apparaît pour nous donner ses directives, encore là, l'obéissance va se faire de façon plus simple. Plus les gens vont obéir plus facilement. Donc, ça, c'est pour l'obéissance. Maintenant, l'obéissance, c'est une chose, mais on veut aussi que les gens se conforment, parce que, comme je vous disais, le conformisme, ça implique un changement intérieur. Ça implique vraiment un changement, une modification des valeurs. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on se conforme ou pas? C'est encore, il y a des expériences super intéressantes. Je vais en raconter une rapidement avant la chanson, et puis après, on reviendra faire le parallèle avec ce qu'on vit. Mais une expérience très, très intéressante, on a mis des gens, encore une fois, des sujets d'expérimentation. Donc, le sujet qui était bien innocent rentrait dans une pièce, et il y avait 5 complices dans la pièce. Et on disait à cette personne-là, on va vous montrer des lignes sur un mur et identifier parmi les 4 lignes qu'on vous montre laquelle est la plus longue. Et quand les 5 autres complices donnaient comme réponse une ligne moyenne, même s'il était évident que la plus longue était nettement plus longue que la moyenne, bien, le sujet se conformait. Fait que donc, même devant un fait visible, évident, on obtenait quand même ce conformisme-là quand la personne était seule, finalement, à vouloir dire le contraire, si on veut. Là.
Ah ben, écoutez, c'est super intéressant et j'ai plein de questions. Et, on va partir en musique d'abord et puis en deuxième partie, on en rediscute. Alors, on va écouter le groupe Lavabo qui chante « La petite potelée ».
Elle avait un top rouge stretché, des leggings prêts à exploser, tête au fer plat, yeux mascara, la bouche en cœur pour les rêveurs. En dessous de son cover de cheap glamour, vivait un profond manque d'amour. Elle conseillait tous ses clients à la recherche d'un plus gros plan, envie de nouvelles sensations, de découvrir les vibrations. Sont énervés, puis elle regarde pas le prix, mais dans tout ça, le seul ennui, c'est que t'es-tu seul en esti quand tu baises avec des batteries. La petite potelée du sex shop, tu te bordes la parfume en sac. La petite patelée du sex shop, tu parles de parfum en sac-clop. Salut, fais-tu des jobs de soir ou ben tu fais juste des accroires? Elle conseille la madame gênée, l'oriente vers un petit sou de cuiré pour regagner son bien-aimé qui passe son temps à travailler. Avec son attirail de cuir, mais ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que le gars rentrera pas à soir. La petite potelée du sex shop, tu bords la porte fumant sa clope. La petite potelée du sex shop, tu bords la porte fumant sa clope. Salut, fais-tu des jobs de soir ou ben tu fais juste des accroires? Arrive Gaston au devant rond, qui pogne son 50 dans pas long, douché, peigné sur son 36, envie de plus qu'un bandage de pisse. S'essaye avec 2-3 clins d'œil, jusqu'à se blesser dans son orgueil. En ligne la section vidéo, se retourne vers un projet solo. Wow, 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 la petite potelée du sex shop, tu pars la porte fumant sa clope. La petite potelée du sex shop, tu pars la porte fumant sa clope. Salut, fais-tu des jobs de soir ou ben tu fais juste des accroires? Elle avait un top rouge stretché, des leggings prêts à
explosé. Tête au fer plat, du mascara. La bouche en cœur pour les rêves. En dessous de son cover de cheap glamour, vivait un profond manque d'amour. La petite patelée du sex shop, sport de bord fumant sa claque. La petite patelée du sex shop, sport de bord fumant sa claque. Elle s'habille sexy en ciboire, mais elle fait pas de job de soir.
Alors on vient d'entendre la petite potelée du sex shop. Ariane Hébert, quand vous avez parlé en première partie de ce qui s'était passé, là, la première expérience en 1970, je connais, j'en ai déjà entendu parler, mais c'est le fait aussi de mettre le pouvoir, quand on donne du pouvoir à quelqu'un en disant, ben voilà, tu peux faire ce que tu veux, si jamais tu trouves qu'il se dirige trop mal, tu as le droit d'aller jusque-là, c'est quand même de la folie, quoi. Le sentiment de pouvoir que certains sur lesquels certains réagissent de cette façon-là.
Exact. En fait, on l'a vu. En fait, l'étude a été prise de 2 ans avec des situations d'expérimentation différentes. Effectivement, dans certains cas, on envisageait cette réponse-là comme étant une recherche de pouvoir. D'ailleurs, on avait refait une expérience comme ça pour la recherche de pouvoir là, avec des gardes de prison. C'est ça. Vous savez aussi.
Je me souviens.
Ça aussi, c'était impressionnant comme résultat. Mais donc, je reviens, comme je vous disais, à l'expérience de conformisme. Donc, on s'est rendu compte que, soumis à l'influence des autres, les gens avaient une grande facilité à se conformer. Alors, et puis, en fait, pourquoi on se conforme, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi, pour qui, une personne pour qui c'est très évident que, par exemple, une ligne au mur est plus longue que les autres, va néanmoins acquiescer puis dire comme les autres.
Pourquoi? Alors,
pourquoi? Il y a plusieurs...
Oui? Allô? Je vous ai perdu. Oui. Ariane est revenue avec nous.
Oui.
Alors, excusez-moi. Alors, on a une légère coupure. Alors, on vous laisse parler, nous expliquer où on était en conformité.
Oui, d'accord. Ben, en fait, je vous disais, on se conforme parce que on présume que les autres ont des informations qu'on ne possède pas ou que notre perception est erronée. Donc, quand tout le monde en arrive à une conclusion, mais que nous, la nôtre est différente, on se remet en doute puis on se dit, ben, nécessairement, il y a quelque chose que je vois pas correct. Les 5 autres, par exemple, dans l'expérience, voient cette ligne plus longue. Peut-être que ma vision est pas bonne ou peut-être qu'il y a quelque chose que je comprends pas. Fait, pour pas avoir la ridicule, ou en fait, on présume que les autres ont de l'information dont on ne possède pas, on ne maîtrise pas. Alors,
on
va y aller dans ce côté-là.
Voilà.
Et aussi pour ne pas justement être rejeté, pour ne pas avoir la ridicule.
C'est ça.
C'est ça. Donc, le regard des autres devient très important. Alors, on finit par dire comme les autres. Même si, au tout départ, on n'est pas nécessairement super convaincu, on le vient. On devient convaincu au fur et à mesure. Ben, t'sais, à force de dire comme les autres pour ne pas déplaire, ben, ça devient nos convictions propres aussi. Et, en fait, l'autre chose, on va se conformer aussi par réciprocité. Donc, si, par exemple, vous me présentez une demande, tout juste après m'avoir rendu service ou m'avoir offert quoi que ce soit, ben, dans ma tête, ça devient du donnant-donnant. Donc, oui, effectivement, je vais me conformer à ce que vous souhaitez de moi parce que vous venez d'établir un geste pour moi. Donc, c'est la réciprocité humaine. Oui, ça va, je vais le faire. Maintenant, donc ça, c'est pourquoi on se conforme. Il y a aussi des stratégies qui peuvent amener les gens à se conformer. En fait, quand on exige de conformer chez les gens, on peut utiliser certaines stratégies. Et peut-être que notre ministre Legault s'en rend pas compte, mais il les utilise à plein. Une qui utilise vraiment beaucoup fréquemment, c'est ce qu'on appelle la stratégie du pied dans la porte. Alors, on fait en sorte que le peuple, la communauté, acquiesce à une petite demande. Et là, on fait valoir que cette demande-là, elle nous a coûté, on est déjà engagé dans le processus. Alors, pourquoi pas en faire une autre? Et ben, on est déjà, justement, on a déjà fait des efforts. On a déjà fait tout ça, pas pour abandonner maintenant. Fait que là, on peut se permettre de faire une autre demande, puis une autre, puis une autre. Vous voyez, là, d'ailleurs, si le couvre-feu, par exemple, nous avait été présenté comme vous allez être en couvre-feu jusqu'à l'été, peut-être que les gens se seraient davantage
rappelés.
Mais oui, c'est ça. Là, bon, on commence par un 4 semaines, et puis après,
prolonge.
Ben, À vrai dire, là, entre vous et moi, là, les discussions de coin de table ou de machine à café, tout le monde savait qu'après 4 semaines, il y avait peu de chances que ça soit levé. Là. Mais là, déjà, là, on commence à faire semer le doute que, peut-être que ça ne cessera pas après 4 semaines. Mais donc, ça, c'est la petite stratégie du pied dans la porte. L'autre stratégie qui semble totalement contraire, mais qui fonctionne tout aussi bien, c'est, on l'appelle la stratégie, celle-là, de la porte dans la face. Fait que c'est l'inverse. On va faire une demande très grande, une demande extrême, qui a toutes les chances d'être refusée. Et puis après, on va revenir avec une demande plus raisonnable. Donc, tu sais, encore une fois, notre gouvernement l'a utilisé, peut-être inconsciemment, mais c'est, par exemple, si votre ado vous dit, ben écoute, est-ce que je peux rentrer, votre ado de 14 ans dit, est-ce que je peux rentrer à 3 heures du matin? Vous dites, ben non. Ben, OK, d'abord, ben, qu'est-ce que tu dirais de minuit et demi? Ah, oui, OK, tout d'un coup, ça semble plus raisonnable, parce que la première demande n'avait pas de sens. Donc, tu sais, voilà, si on vous dit, par exemple, est-ce qu'on peut réduire ton salaire de 50% puisque tu es en télétravail? Non. OK, ben d'abord, accepterais-tu un 15%? Oh, ouais, peut-être. C'est ça. Oui. C'est l'autre formule. Mais je le répète, ça, c'est des stratégies qui sont bien utilisées et qui fonctionnent bien.
Oui, donc, c'est stratégie de la manipulation, ni plus ni moins.
Stratégie de manipulation, exact. Donc, pour le moment, je vous dirais que c'est comme ça qu'on amène le conformisme dans la société. Maintenant, qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont arrêter de se conformer? Pour arrêter de se conformer, il faut avoir des alliés. C'est rare qu'une personne va cesser de se conformer seule. Elle va au moins demander un partenariat avec une autre personne.
Oui.
Et au fur et à mesure qu'on a des alliés, là, c'est là que l'anticonformisme s'enchaîne. Ben, l'exemple est bon. Si vous voulez faire un party, mais vous êtes seul à vouloir faire votre party va être plate. Là. Actuellement, là, pendant le confinement, pendant le couvre-feu et tout, la minute que vous trouvez un allié, ben là, vous pouvez vous... permettez-moi l'expression, vous pouvez vous craquer entre vous. Vous dites, ben, c'est pas si grave, ben, juste une fois, ben, tu sais... Un verre chez toi, un verre chez moi, un verre. Et voilà. Et là, tranquillement, l'anticonformisme prend sa place. Là, t'sais. Puis, ben, il y a une différence entre les sexes. Les femmes ont tendance à davantage se conformer que les hommes. Fait que donc, ça, précisément pourquoi, il y a plein d'explications, mais ce qu'il faut retenir, c'est que oui, on est plus conformiste que les hommes. Je pense qu'il y a un côté très masculin, valorisé parfois, à ne pas se conformer. Alors, il y a une dimension culturelle aussi, mais voilà. Fait que donc, pour le moment, enfin, on est quand même, je pense qu'au Québec, on est quand même bien conformiste et bien obéissant pour une grande majorité. Il y a encore des petits gains à faire si on se fie à ce qu'on voit là, actuellement par rapport au taux d'hospitalisation, puis bon, dans les médias. Mais donc, si le gouvernement Legault continue avec ses deux stratégies de porte dans la face et de pied dans la porte, ça devrait diminuer et on devrait atteindre des chiffres raisonnables.
D'accord. Ben, on arrive à la fin de cette conversation, mais je crois que Fulgence avait une question, donc on va peut-être prolonger d'une ou deux minutes, mais c'est très court parce qu'on n'a plus qu'une minute de temps.
Pas vraiment. Je voulais simplement dire, mais quand on rentre un peu, on quitte un peu le camp de Legault, mais si on parle même dans la vie privée de chacun de nous, dans les groupes, tout le monde est presque conformiste pour ne pas être rejeté par la clique.
Oui, exactement. Mais s'il suffit que votre clique devienne anticonformiste, ben, probablement que vous allez vous conformer à votre clique aussi. Oui.
Vous devenir aussi.
Oui.
Ben, écoutez, en tout cas, moi, ça m'a bien énervé, tout ce que vous m'avez dit. Donc, je pense que c'était le but. merci beaucoup, Ariane, et à la prochaine fois.
Merci, Ariane.
Et oui, je déteste toujours autant la manipulation d'où qu'elle vienne. Mais bon...
ça fait partie de la vie quand même, hein. C'est les jeux de la vie.
Exact.
Alors,
bonne fin de chronique, puis on se reparle bientôt.
Merci, à bientôt. On part en musique avec Somme, composée de Ariane Moffat et Étienne Dupuis-Cloutier, qui nous chante Aimant.
Les yeux là où il ne faut pas, et je flanche tes hanches.
Et voilà, on arrive à la fin de cette demi-heure. La prochaine, Fulgence.
Oui, la prochaine partie de l'émission, on va recevoir le PDG, bien sûr, du Centre de Francophonie des Amériques.
Voilà. Alors, restez avec nous, ça va être très intéressant.
Ouais, on vous revient tout de suite.
Bougez pas.
Vous écoutez Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
On démarre la deuxième partie de l'émission avec en musique tout de suite. Avant de recevoir notre invité, c'est Corias Fouki, Tout ce qu'il faut.
Concept fly, le bedon plein de piège, j'ai le compte verified.
J'ai des connexions taille, j'ai une collection de time. Une coupe de médailles pour le Pizza World Game.
J'ai le cœur sa main, pis l'estomac dans les talons. J'ai le fly d'un chien, pis le d'un étalon.
J'ai des hoodies homies, pis une paire de bonnets. J'ai mes black jeans sur le cheval blanc de Napoléon.
J'ai des boxers en bambou,
la douceur de Vendoux.
Des groupies en région qui se font tatouer dans le cou. Des rappers has-been qui essayent encore d'être dans le coup. Qui veulent me vendre leur tape devant les galeries d'Anjou.
J'ai deux ou trois blocs pour le cancan illégal. Quand je me fais toujours des conditions idéales. Pop sa doc qui bouge qui fournit le médical. J'mets la meute à Curry, c'est même pas la véritable.
J'ai un bac de recyclage, une poubelle pis un compost.
J'ai un stylo, un efface, un aiguisoir, un compas. NHL 2020 sur ma nouvelle console.
J'ai la signature de Jolin sur mon nouveau contrat. J'ai ma passe de saison du sous de Saint-Félicien.
J'ai une paire de pantalons avec des motifs de requin. J'ai une coupe de paire de souliers qui sont américains.
J'ai des boys dans mon bac, des bons samaritains.
À la vente, des rabais pour les vacances. J'ai une grande famille, genre 12 ans, 14 ans, tante. J'ai une coupe de patente, des tournevis, des planches. Un petit massage à l'huile chaude pour me détendre.
J'ai ma carte du Costco, j'ai des crates de Porto. J'ai du vin de Bordeaux, j'ai des gigs corpo. J'ai le stack, j'ai les moyens, j'ai un fax. Des employés, j'ai un yacht, puis un voilier. Mais pas de cash pour mon loyer.
J'ai une mijoteuse,
une carte de crédit qui fait que je vis heureux. Un MacBook Air pour écrire mes verses.
Pour les munchies la nuit, j'ai une petite veilleuse.
J'ai les guitares et les pianos, j'ai les trompettes et les sax.
J'ai le comptable corrompu pour esquiver les taxes. J'ai les vibes qui turn up le crowd, wavy dégueulasse.
J'ai les status dans le rap comme les Jay-Z et les Nas.
J'ai un casque de 4 trous, un nouveau tatou.
J'suis dans les festivals western avec les bigatou.
J'ai un ponton 16 places,
une crise de grosse terrasse.
J'ai une recette secrète des galettes à la mélasse. Un light pour le vogue.
J'ai un ride pis un vélo.
J'ai un sac de mélimélo.
J'ai une cape de super-héros, j'ai le feu du wasabi.
J'ai des piments à l'avignon. J'ai l'œil de Kakashi.
J'ai le sou de Naruto.
Corias Fouki, on a tout ce qu'il faut.
Je suis bien d'accord.
Ah ouais. On a déjà notre invité qui est déjà au téléphone, Sylvain Lavoie, PDG du Centre de la Francophonie des Amériques. Savez-vous qu'on compte 33 millions de francophones et francophiles dans les Amériques ? On en parle avec Monsieur Lavoie. Tout de suite, c'est parti. Bonjour Monsieur Lavoie.
Bonjour.
Bonjour, bonjour, vous allez bien ?
Oui, on va bien. Et vous ?
Très bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation pour cette entrevue.
Oui, oui, il faut qu'on parle de francophonie. On est en minorité dans les Amériques,
donc...
On
va aller mieux, Quint. On vous aura écouté.
Voilà. On profite pour vous souhaiter bonne année en même temps, parce que... Voilà. Voilà, bonne année 2021 à vous et à votre équipe.
Merci à tous vos auditeurs également. Merci. Merci beaucoup.
Merci. Alors, pour démarrer tout de suite, là, est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord ce que c'est que le Centre de la Francophonie d'Amérique, sa mission, puis le contexte dans lequel il est créé, depuis quand est-ce que vous vous occupez des francophones et des francophiles dans les Amériques?
Excellent. Ben, écoutez, le centre a été inauguré en 2008. Hein. Ça découle d'une volonté du gouvernement du Québec de mettre en mouvement la francophonie des Amériques. Alors, on se souvient que l'inauguration du centre a eu lieu là, lors du 400e anniversaire de la Ville de Québec.
Oui.
Donc, essentiellement, le centre contribue là, à la promotion et la mise en valeur de la francophonie, à tisser des liens, hein, de voir à créer des échanges, à créer des partenariats, du développement pour finalement, réseauter l'ensemble des francophones et des francophiles de tout le continent. Vraiment, notre action là, est très ancrée sur le terrain. On est des gens qui sont passionnés là, de travailler avec les différents intervenants du milieu. Donc, on développe bien sûr des initiatives là, qui amènent au partage, au développement, puis essentiellement à la célébration hein, de cette belle langue, de cette francophonie qui nous anime. Là. Donc, essentiellement, nous, on veut faire les liens entre les francophones et comme les différentes communautés partout sur le continent. Et ce qu'on souhaite, bien sûr, là, c'est une francophonie qui est plus solidaire, qui est plus forte, qui est plus inclusive, qui est plus riche. Hein. Donc le centre là, se positionne là, et positionne nécessairement le Québec là, comme une source d'innovation puis de transformation sociale. Et tout ça, bien sûr, au service de la grande famille de la francophonie.
Oui, oui, oui. Et comment vous...
Ah, c'est beau.
Oui, oui, c'est beau. C'est beau. C'est très bien défini. Mais comment est-ce que vous, en tant que personne et francophone en même temps, comment est-ce qu'on se sent quand on a la tête d'un organisme comme ça de 33 millions de francophones et de francophiles?
C'est du boulot, ça, sans doute.
C'est du boulot, mais c'est tellement une occasion extraordinaire. Vous savez, hein, la francophonie des Amériques, avec ses 33 millions de personnes, c'est tellement une occasion de développement, de partage, de mise en commun des savoir-faire, des savoir-être pour le développement global de l'ensemble des communautés partout sur le continent.
Oui.
Donc, ça peut paraître être un défi de taille, mais combien stimulant que ça peut être, hein, parce qu'on a cette occasion de travailler avec l'ensemble, avec tous ces acteurs, ces actrices-là qui souhaitent développer la langue et développer les différentes cultures dans leur région, dans leur communauté.
Oui.
Alors, c'est très stimulant et pour moi, ayant travaillé notamment dans des contextes minoritaires au niveau de ma carrière, bien, je trouve vraiment très pertinent de voir à quel point c'est différent, d'aller chercher justement le meilleur des communautés et les rendre disponibles, ces belles initiatives-là et ces belles occasions de développement, de rendre ça accessible à l'ensemble des autres partenaires et aux autres communautés. Donc, je pense que c'est, comme vous le dites, c'est un travail qui est imposant certainement, qui a beaucoup de défis, mais tellement de possibilités. Donc, ensemble, on est capable d'y arriver et on est capable de faire de grandes choses.
Oui, oui, oui. Et puis, je vous dis bravo pour votre engagement dans le communautaire. Hein. C'est très, très, très important. Ça, il faut le dire.
Tout à fait.
Voilà. Monsieur Lavoie, qui sont vos membres? Vous avez combien de membres? Comment sont répartis les répartitions géographiques? Comment ça se passe? Qui peut devenir membre? Individus, les groupes, institutions, les gouvernements? Comment ça se passe? Comment on devient membre?
C'est toutes des bonnes réponses. Hein? Alors, le centre actuellement compte environ 60 000 membres à travers les Amériques.
60 000 membres?
60 000 membres, oui, tout à fait. Là. Et je vous dirais qu'avec avec la pandémie et la COVID, ce qui s'est passé pour nous, c'est qu'on a vu nos chiffres là, mensuellement doubler, littéralement. Donc, habituellement, on avait une croissance d'environ 500 membres par mois et on a vu durant la COVID...
Ne dites pas ça trop fort parce que si le coronavirus entend ça, il va rester. Hein?
Non, inquiétez-vous pas.
Tu dis grâce à moi, le nombre de francophones a augmenté.
On ne veut pas ça. On ne souhaite pas ça à personne.
Je vous laisse continuer. Ouais.
Non, on sait tous que ce virus hein, nous quitte le plus tôt possible pour qu'on puisse bien sûr commencer à retrouver les gens. C'est ça aussi, hein,
oui.
Cette francophonie, hein, c'est la rencontre de l'autre. Hein, et
oui.
Ça nous manque actuellement de pouvoir justement avoir cette présence.
Oh, combien?
On est bien hâte d'être... d'être justement là, au-delà de cette pandémie pour retrouver la grande famille, oui. Même si on a réussi à le faire au centre de façon virtuelle, et c'est peut-être un élément qui a amené justement ce succès pour nous d'avoir de plus en plus de gens qui s'intéressent à notre centre, c'est que nous avions quand même une bonne expérience au niveau de toute la programmation et d'activités en ligne parce que réseauter et rejoindre l'ensemble de la francophonie des Amériques, ça ne peut pas seulement se faire en présentiel.
Non,
donc, on
devait
bien sûr être créatif très tôt. Donc, on était en mesure d'offrir, je pense, durant la pandémie, et d'être une alternative et d'avoir une occasion d'offrir un service, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de la Bibliothèque des Amériques et tout. Donc, de réellement offrir un service aux gens qui peut-être se sentaient seuls chez eux. Donc, on a peut-être réussi à rassembler, ou à contribuer du moins à rassembler cette belle famille francophone partout dans les Amériques, ce qui a contribué, bien sûr, à une augmentation de l'intérêt pour nos services et nos membres, ce qui fait qu'on a 60 membres aujourd'hui. Habituellement, on avait une augmentation de 500 membres par mois et on a vu dans les derniers mois, durant la pandémie, une augmentation de 1000 membres par mois, ce qui est quand même un succès pour nous. On est très contents que les gens s'est tournés vers nous pour qu'on puisse les accompagner dans ce moment de confinement-là.
Oui, oui.
Et est-ce qu'il y a, au niveau de la bibliothèque, ça a pris aussi une ampleur encore plus importante? Le fait d'aller lire, de pouvoir lire en français, de faire...
Ah ben tout à fait, hein, parce que vous savez, étant confiné à la maison, c'est certain que nous, avec la Bibliothèque des Amériques, c'était une occasion, bien sûr, c'est un service qui offre un service de bibliothèque en ligne. Vous savez, plus de 15 000 livres d'auteurs.
Oui, c'est ce que j'avais sur votre site, d'ailleurs. Oui, 15 000. C'est beaucoup, hein.
Oui, mais c'est bien parce que les gens lisent. Je veux dire, c'est tellement facile d'aller voir en Netflix, d'aller regarder des choses. Ça veut dire qu'ils ont aussi le goût de lire. C'est formidable.
Ça, heureusement. Monsieur Lavoie?
Oui.
On va faire une petite pause musicale. Et puis, après, le micro sera encore à vous. C'est tellement intéressant ce que vous nous racontez. À tout à l'heure, monsieur Lavoie.
À tout de suite.
Oui.
Surtout ne te qu'est-ce que t'as?
On écoutait la part de Jacques Higelin. Voilà, ok. On va continuer avec notre invité qui est encore au téléphone, Sylvain Lavoie, PDG du Centre des Francophones des Amériques. Alors, on était sur les services, non? Voilà, oui. On parlait des bibliothèques, les 15 000 livres en ligne.
Du fait que les gens continuent à lire malgré tout, ça c'est beau.
Voilà, et 15 000 livres disponibles. Quelles sont les demandes qui reviennent le plus souvent? Les initiatives qui se démarquent, les innovations, quelque chose comme ça?
Bah, vous savez, il y a tellement d'activités au sein du Centre. On parlait justement de la Bibliothèque des Amériques, qui est certainement une initiative de phare du Centre, avec ces 15 000 livres, comme je vous mentionnais, tout ça. Mais je vous dirais également... Il y a la formation en ligne. C'est sûr qu'avec la COVID là, et tout, on est obligé, bien sûr, de se réinventer. Donc, à l'automne, nous avions une formation pour les enseignants et qui était justement permettre d'appuyer le personnel enseignant, notamment.
C'est très intéressant. Hein?
Tout à fait. Donc, le volet éducatif était... Et on a eu vraiment d'excellents commentaires, une belle participation de la part des enseignants de partout. Hein. Il y a des sessions qu'on avait plus de 25-26 pays de représenter. Donc, c'était vraiment très, très intéressant.
Oui.
Et ça témoigne aussi du besoin d'appuyer le personnel à ce niveau-là pour justement le permettre de s'adapter dans un contexte en ligne, de l'enseignement en ligne et tout. Donc, il y avait quand même des sessions très intéressantes. Et ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, notamment, c'est une formation pour les entrepreneurs. Donc, on sait notamment que le concept, dans un contexte de COVID et tout, le développement économique est quand même un élément important.
Oui.
Et sera un élément important. Donc, comment emmener nos entrepreneurs, notamment en agroalimentaire? Donc, on va bien sûr offrir une formation dans les prochaines semaines à ce niveau-là. Mais lorsqu'on parle de programmes, on peut parler aussi de toutes les activités, les différents concours qui viennent stimuler la fierté, la collaboration, les échanges.
Oui, oui. Et puis vos rencontres littéraires en ligne à partir du 25 janvier, parlez-nous un peu de ça. Quels sont les auteurs qu'on pourrait entendre et puis comment faire pour y participer?
Oui, donc à partir du 25 janvier, merci d'en parler parce que on est très, très fiers de cette initiative des rencontres littéraires en ligne. Notamment, à partir du 25, on aura justement les auteurs. Donc, c'est une initiative qu'on appelle Noir Amérique, qui est une conversation littéraire.
Oui.
Donc, c'est bien sûr un événement qui sera en ligne. C'est un événement qui est gratuit. Hein. Donc, qui est en lien avec la Bibliothèque des Amériques. Ça commence le mardi 26 janvier.
Janvier.
La semaine prochaine.
Ça va jusqu'au 23 février.
Jusqu'au 23 février.
Presque un mois, disons.
Presque un mois, effectivement. Donc, nous avons cinq auteurs. Si vous me permettez, je vais vous les énumérer.
Oh, oui, allez-y.
Donc, nous avions, bien sûr, Liane Turand de la Guadeloupe la semaine prochaine.
Oui.
Ensuite, Patrick Chamoiseau de la Martinique. Chloé Savoie-Bernard du Québec.
Oui.
Il y a également Alain Mabankou.
Mabankou, c'est le prof de littérature française en Californie. Là.
Tout à fait.
Originaire du Congo.
Exactement, Émilie Prophète d'Haïti. Donc, ça se veut des discussions, tu sais, une discussion qui sont, bien sûr, un échange, un espace d'échange avec des passionnés de littérature et on en a beaucoup. On est vraiment contents bien sûr, on espère qu'ils vont se joindre à ces discussions-là et qu'ils vont justement participer à cette discussion sur le vivre ensemble et sur le racisme. Donc, on pense que c'est bien sûr une belle occasion d'échange, d'apprendre et bien sûr de connaître davantage sur les gens qui, bien sûr, font partie prenante de cette grande famille de la francophonie.
Et ce sera animé par...
Ça sera animé par notre... Je vous laisse le dire, mon cher ami.
Notre Rodney national, Rodney Saint-Éloi.
Et voilà.
Auteur et puis fondateur de la maison d'édition Mémoire d'Encrier.
Tout à fait. Donc, on est vraiment très heureux de cette belle collaboration-là et on a vraiment très, très hâte là, de voir cette initiative-là commencer dès la semaine prochaine.
Mmh. Si c'est possible de moi, je lui ai laissé un message vocal, j'ai pas eu de réponse jusqu'à présent. Je voulais qu'il vienne nous parler de ça d'ailleurs. Mais malheureusement pas encore de réponse. Il va falloir que je recontacte Sonia pour qu'elle puisse organiser ça.
tout à fait.
Ouais. Votre collaboratrice.
Et peut-être, si vous me permettez, un élément qui est quand même important parce que vous savez le centre de la francophonie.
Oui.
Lorsqu'on parle aussi de gouvernance, on parle d'activité et tout ça, mais il demeure quand même que ceux qu'on fait l'administration, nous avons des postes. Qui sont bien sûr élus par les différentes communautés. Donc, j'invite peut-être les gens à devenir membres hein, du Centre de la francophonie des Amériques parce que ils sont en mesure, bien sûr, de voter pour des élections, pour des postes d'administrateurs au sein de notre conseil d'administration. Il y a deux postes, en fait, qui sont ouverts. Donc, une élection pour pour une personne.
Oui.
Une élection d'une personne provenant de l'Ontario.
Okay.
Et une personne de... un poste, si vous voulez, qui est d'une personne élue par les dirigeants des organismes pan-canadiens et des communautés francophones et acadiennes du Canada. Et peut-être un fait à noter, c'est tous les membres qui votent pour ces personnes-là. Ce n'est pas seulement les gens qui votent, par exemple, de l'Ontario, qui votent pour la personne de l'Ontario. Donc, c'est tous les membres.
C'est tous les membres qui votent, oui.
Membres qui votent pour les personnes. Donc, on invite les gens, bien sûr, à participer au développement et à la gouvernance de notre centre, ce centre-là, en devenant membre, bien sûr, en participant aux élections.
C'est ça. Monsieur Lavoie, avant de terminer, est-ce que la francophonie en Amérique se porte bien? Et quels sont les défis actuels? Est-ce que la nouvelle génération, quel est son intérêt pour la langue française?
C'est une excellente question. Hein? Et on constate là, qu'il y a une prise de conscience là, de la valeur puis de l'héritage de la langue française. La langue française, là, c'est une langue qui est tellement riche. Hein? Et les communautés, les gens qui la parlent le sentent aussi. Et puis les valeurs culturelles, je veux pas, c'est la langue, c'est le reflet de la culture, c'est le reflet des cultures. Puis... Et les valeurs culturelles là, qui sont partagées dans les communautés, bien, ce sont de plus en plus des sujets d'actualité. Donc, je pense que la francophonie des Amériques a beaucoup à offrir dans le contexte actuel qu'on vit actuellement. Et c'est une occasion, hein? C'est une occasion de partage, de réseautage, d'amitié, de fraternité, d'entraide, hein, qui favorise le développement de nos communautés, là, vraiment à tous les niveaux. Puis, le centre va beaucoup de perspectives positives, là, justement pour travailler ensemble, pour forcer, là, justement, puis permettre la réalisation de projets là, qui va susciter la collaboration puis l'entraide. Puis au-delà de la langue, je pense qu'il y a quand même des valeurs qui nous unissent, les valeurs qu'on partage ensemble dans le respect de la diversité, l'ouverture vers l'autre. Hein. Puis au niveau de la jeunesse, on considère la jeunesse qu'elle ne participe pas, qu'elle n'est pas engagée. Bien, ce que j'ai vu dans la francophonie, cette jeunesse-là, moi, elle m'anime. Elle m'anime de plus haut point.
Génial.
C'est une francophonie, des jeunes sont très actifs. Puis dans au niveau on parlait des programmes tout à l'heure, là, des exemples qu'on organise au sein du centre, on parle de francophonie, du Parlement francophone des jeunes des Amériques. Que le centre, là, on a accueilli tout près de 100 jeunes des Amériques en 2018. Le concours Ma Minute francophone, je vous invite à aller voir les clips, justement. Là, donc, nous, le centre, on était organisateur de ça. On avait des lauréats de jeunes de Cuba, du Mexique, du Québec, de la Saskatchewan. Ces gens-là ont tellement démontré avec ces clips-là leur attachement à la langue, la fierté qu'ils portent à cette langue-là et les valeurs de la francophonie.
Monsieur Lavoie.
Faut avoir confiance en cette jeunesse et beaucoup confiance en elle.
J'aimerais bien vous laisser continuer, mais malheureusement, on est à la fin de notre entrevue. C'est tellement...
Merci beaucoup.
Je suis là, toute oreille, en train de vous écouter.
Très intéressant.
On se revoit. On va vous revenir de toutes les façons, comme je vous l'avais dit, dans les différents courriels avec Sonia, pour la chronique mensuelle.
Ben merci, en tout cas, merci de l'invitation. Hein. C'est tout à fait exceptionnel et puis certainement qu'on essaiera de collaborer avec vous pour faire parler de notre belle francophonie.
Eh bien, tant mieux.
Merci beaucoup, Sylvain Lavoie.
Merci.
Merci, PDG du Centre des francophones des Amériques. Et bonne fin de journée à vous.
Au revoir.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Merci, au revoir.
Then my mind went trip, create the wave, so the vibe all mixed. Yo, I've been at the top of the top, fell from the ceiling before I fell, cause I needed to grow. Bruce Lee, Roy with the glow, walked on the edge, fuck trying to dream in the bed. Before I die on these meds, nigga gon' die in the feds. Before I make it to jail, probably put one in the head. Fuck the judge and the prosecutor for hanging me dead. Plus 30 and still moving, I'm closer to live, right? Closer to live, right? All the trauma from past never taught me to fear heights. Norma to fly now, can't be stuck in the red lights. Take flight, the life gon' bloom for the black knight. Keep a peace, no Buddhist. Got the whole hood booming, I'm like a Crip Hop student. You and your ass look stupid, you making we look bad. I ride the beat, won't crash. I had to fill my bag, I had to hide my stash. You know the cops lights flash, I had to clear my dash. I represent my flag, I gave the hood my last. Every full crumb minute, I had to change my image. The brain don't got limits, you think a meal mean winning. The pigs out here skinning, your soul ain't authentic. You died and still ain't living.
Oui, c'était Gorillaz avec la complicité des Schoolboy. Voilà, on est à la fin de l'émission comme ça déjà. Arrête.
Oui, on arrive à la fin de l'émission et bientôt à la fin de la semaine, puisque demain c'est la dernière journée.
J'ai même pas
de
pensé
la,
à
cette
ça.
Semaine.
Toi, tu...
Donc, ben, merci beaucoup. Merci d'abord à Ariane Hébert.
Ariane Hébert,
qui
oui.
Qui nous a parlé de manipulation et qui m'a bien énervé
oui,
avec ça.
Je savais que tu allais revenir sur ce mot-là.
Il fallait l'entendre. Oui, c'est un mot important et il oui. faut y faire très attention.
Il faut y faire très attention. Mais tu n'as pas dit ça. À... Est-ce que ça tombe dans les oreilles des politiciens? Bon. Les décisions viennent de là-bas. Et puis, on dit merci à Sylvain
oui,
Lavoie, PDG
oui.
du Centre des francophones des Amériques.
Merci. Très intéressant.
Merci Maurice.
Merci Maurice Bolduc oh, pour oui. les musiques. Merci à vous et toutes
puis,
et vous tous
chers auditeurs,
de nous avoir écoutés.
Et votre fidélité aussi.
Et puis, on se dit à demain.
À demain.
À demain, Fulgence.
Ouais, je reviens et je vais leur dire de prendre soin de leurs minutes.
À demain.
À demain.
Bonne soirée.
Allez, merci à toi aussi.